Bonjour à tous. Alors, je suis en fin de thèse à l'Université de Lyon, au laboratoire EVS côté géographie et au laboratoire ERIC côté informatique. Et actuellement, je suis aussi ingénieur d'études à la plateforme université de données Grenoble-Alpes. Ce que je vais présenter aujourd'hui n'est pas lié à mon travail en tant qu'ingénieur d'études, mais vraiment à mon travail de thèse. Donc, je ne vais pas rentrer volontairement dans les détails de cette thèse, mais je vais vous donner seulement quelques éléments sur les données et les méthodes que j'utilise, juste pour vous permettre de mieux comprendre la suite. Alors, l'interface que j'ai construite, elle avait pour but d'étudier quelque chose dans l'épistémologie de la géographie. Et en fait, je voulais voir comment évolue le sens de grandes notions comme le milieu, l'espace, dans la géographie au cours du temps. Alors pour ça, je suis parti de données textuelles qui proviennent du portail Percé. Sur deux grandes revues de géographie françaises, les Annales de géographie, donc sur 1892-2000, et l'Espace géographique sur 1972-2000. Donc, sûrement, il y a beaucoup d'entre vous qui connaissent le portail Percé, où on peut consulter des articles et télécharger les PDF. Ça, j'ai envie de dire, c'est le côté public de Percé. Ce qu'il faut savoir, c'est que derrière aussi, ils ont des données qui ne sont pas diffusées, et notamment tous leurs articles, ils les ont dans un format qu'on appelle le XML-TEI, où on a l'OCR de l'article, mais on a aussi dans ce format tout le travail de notation qu'ils ont fait, qui dit, bah voilà, telle partie de l'article, c'est un titre, telle partie, c'est une figure, telle partie, c'est une bibliographie. Et pour moi, c'était important de récupérer tout ça pour faire un tri. Par exemple, pas les informations de bibliographie m'intéressaient pas forcément dans ce que je voulais faire. Donc, je voulais pouvoir retirer certaines choses. Et puis, je voulais aussi pouvoir travailler sur l'OCR, essayer d'améliorer. Donc, il y a eu tout un travail très important de pré-traitement de ma part. Ces données je les ai obtenues suite à la signature d'une convention et elles sont uniquement pour mon travail de recherche et je n'ai pas le droit de les diffuser. Et ça explique aussi beaucoup de choses dans mon choix d'interface par la suite. Donc, des données non diffusables. Là, je vais passer un petit peu vite sur les techniques que j'utilise, c'est des plongements de mots Word2Vec, Glove, pour venir vite sur la construction de l'interface. Donc, je l'ai faite en utilisant un framework web qui s'appelle Django, qui est très connu. Et mes objectifs, donc, c'était la reproductibilité comme indiqué dans le titre. C'était aussi, je pense, l'explication fine des choix que j'avais réalisés. Je voulais essayer de rentrer dans le détail et qu'il n'y ait pas des parties en fait où l'utilisateur ne sait plus trop ce qui se passe et j'ai fait des choix, mais j'avais un peu ce projet un peu fou de tout détailler et que l'utilisateur puisse suivre tout le processus que j'avais fait. Et en plus de ça, je voulais lui offrir en fait un peu l'atelier où il pourrait explorer mon travail, mais avec d'autres options que celles que j'ai privilégiées. Par exemple, si j'ai choisi moi d'enlever les biblios, tout d'un coup, qu'est-ce que ça fait? Quel résultat on obtient si on fait le choix de laisser les biblios? Ou par exemple, j'ai fait le choix de lémmatiser mes textes en amont, c'est-à-dire si un terme au pluriel et au singulier, ils sont tous ramenés à la même racine ou les verbes conjugués. Et si je fais le choix de lémmatiser, si quelqu'un veut refaire mon travail sans lémmatiser, qu'il puisse facilement le faire sans forcément rentrer dans le code, mais juste en cochant la case, non, je ne lémmatise pas, quoi. Donc, il y avait cet espoir de construire ça. Pour cette présentation, je vais vous montrer déjà à quoi ça ressemble, cette interface web. Au niveau du vocabulaire, j'utilise le terme d'interface web, mais j'aurais pu aussi utiliser le terme d'application web. Pour moi, l'interface, c'est la forme visible, c'est ce que vous voyez à l'écran, alors que l'application, c'est le code qui est derrière. Mais voilà, que j'utiliserai souvent l'un pour l'autre, mais pour moi, c'est seulement cet aspect qui change. Ensuite, il y aura une deuxième partie, comment j'ai construit cette interface, sachant que je n'ai pas de compétences particulières au départ sur le sujet et que je suis encore loin d'être un spécialiste. Et puis, je ferai une dernière partie sur ce que ça m'a apporté et quelles limites. Alors, le nota bene en bas, c'est que, en fait, mon interface aujourd'hui, elle contient une grande partie du texte de ma thèse qui n'est pas publié. Donc, en fait, la présentation suivante va se faire avec des copies d'écran que j'ai faites et vous perdrez un petit côté dynamique. Mais voilà, c'était compliqué pour moi de mettre tout d'un coup en accès libre toute ma thèse qui n'est pas publiée. Et puis, il y a beaucoup de choses dans cette interface. Donc, je vais vous parler en fait d'éléments de. J'ai fait deux focus pour essayer de respecter le timing. Donc ça, c'est la page d'accueil de l'interface. Et en fait, ça reprend les deux premières parties de ma thèse avec les mêmes titres. Et il y a un élément sur lequel je vais insister déjà pour commencer, c'est en bas pour un usage avancé, où j'offre la possibilité à l'utilisateur de s'inscrire ou, s'il est déjà inscrit, de s'identifier. Et en fait, c'est quelque chose qui s'est imposé à moi au fil du projet et que je trouve très utile, c'est qu'on peut définir, en fait, faire la différence entre juste la personne qui va venir, qui va consulter et qui n'est pas plus intéressée que ça, quelqu'un qui voudrait aller plus loin, qui va s'inscrire, qui va avoir du coup d'autres droits dans l'interface. Et moi, qui suis en plus super utilisateur, qui peut encore avoir d'autres droits. Et donc, ça permet de différencier des usagers et des usages. Et j'ai trouvé ça très utile et je vous montrerai ensuite pourquoi. Ce que je vous propose, c'est que du coup, on va faire un focus sur une partie qui s'appelle exploration et délimitation du corpus. Donc là, il faut imaginer que je clique sur ça et j'arrive ici. Et donc, une des premières choses que je développe, en fait, c'est, il y en a combien? Sept fonctions d'exploration du corpus. Et en fait, c'est ce que j'ai fait moi quand j'avais mon corpus avec mes milliers d'articles. Ben, comment je l'ai exploré et je peux, dans cette interface, ben, mettre à disposition ces fonctions et surtout montrer leurs résultats. Donc là, je vais m'intéresser à la première, afficher les numéros par ordre chronologique. Donc si je clique, en fait, vous arrivez là sur le texte qu'il y a dans ma thèse, mais ici, je peux renvoyer vers une page où j'ai le résultat de mes traitements assez bruts. Voilà, les numéros de ma revue des annales de géographie, j'en ai 632 et ils ont cette forme-là. Et en fait, ça me permet de bien expliquer comment les données sont structurées. Là, par exemple, ça me permet d'expliquer, ben voilà, on peut s'apercevoir qu'ils ont tous la même structure. Mais il y a des fois des numéros où il y a marqué, au lieu de num, il y a marqué bib. Parce que, en fait, c'est des numéros consacrés à des bibliographies. Donc, dedans, il n'y a pas d'article et ce n'est pas la peine que je retienne ces numéros-là. Donc, ça me permet vraiment de rentrer dans le détail des données. Et le deuxième focus que je voudrais vous faire, qui est en fait la suite du premier, c'est la visualisation des corpus dans l'interface. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que moi, j'ai un corpus général que j'ai hérité de Percé, mais je ne vais pas tout prendre dans ces, par exemple, les numéros de bibliographie, je vais les enlever. Les numéros, les articles en anglais, je vais les enlever. Les comptes rendus, je vais les enlever. Donc ici, c'est ma page qui présente mes corpus. Donc ici, j'ai une boîte de sélection où mon corpus ici s'appelle article. Et en dessous, vous voyez, c'est tous les paramètres que j'ai utilisés, que j'ai utilisés pour construire mon corpus. Donc, par exemple, là, j'ai un paramètre qui s'appelle Stop Word Dossier, où j'ai mis Bib et Os, c'est-à-dire que si le dossier, il y a Bib ou Os dedans, Os, c'est un hors-série, je ne retiens pas les articles de ce dossier-là. Donc, ici, ça permet de vraiment donner tous les paramètres que j'ai utilisés. Et quelqu'un qui voudrait voir comment j'ai construit mon corpus d'études, il peut. Et je peux avoir plusieurs corpus d'études, vu que j'ai une boîte de sélection. Après, si vous cliquez là, je peux avoir un autre corpus et avec d'autres options où vous voyez ce que j'ai mis dedans. Et donc ça, c'était l'interface pour un utilisateur qui arriverait sur mon interface comme ça, sans s'être inscrit. Et moi, de mon côté, en tant que super utilisateur, bah, vous voyez que j'ai le même formulaire, mais en dessous, j'ai un bouton en plus qui est « Effectuer un nouveau corpus d'études ». Donc, quand je clique sur ce bouton, ça me crée le corpus d'études, ça l'enregistre dans une base de données, et après, les utilisateurs peuvent voir voilà, qu'il y a un nouveau corpus d'études parce qu'il apparaît dans ma boîte de sélection. Et de la même, j'ai une option pour supprimer un corpus d'études. Est-ce que vous voulez que je prenne des questions ou je fais toute ma présentation
Moi, je te propose de faire ta présentation. À part s'il y a des questions dans le chat, posez-les et je les ferai remonter. Comme ça, je permettrai d'interrompre s'il y a des questions.
OK. Donc, comment j'ai construit ça? J'ai beaucoup tâtonné au départ. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails de mes tâtonnements. Une grande question, je pense, qui se pose, c'est pourquoi pas avoir adopté la solution Notebook Jupyter, qui est la plus utilisée quand on a ce souci-là de la reproductibilité. Alors moi, déjà, j'avais un problème par rapport à mes données initiales qui sont non diffusables. Donc, avec cette interface, en fait, ça me permet que les données, elles sont stockées sur le serveur en bac et personne n'y a accès, en fait. On peut jouer avec, mais on n'a pas accès à ces données. Alors qu'avec un notebook, j'aurais eu plus de mal à faire ça parce que souvent, on appelle les données sur le notebook et finalement, on peut les télécharger facilement. La deuxième raison, c'est que mon processus de recherche, il est un peu long et complexe et j'ai plein d'étapes. En fait, ça ferait un notebook qui serait interminable, quoi. Donc, il faudrait, pour refaire ce que j'ai fait avec des notebooks, pouvoir articuler plusieurs notebooks ensemble. Donc, j'ai découvert il y a pas longtemps qu'il y avait des solutions, notamment avec Glamourous Toolkit, mais à l'époque, je ne connaissais pas ça. Pour moi, un notebook, c'était juste un truc unique et je ne pensais pas qu'on pouvait les articuler, quoi. Je ne connaissais pas les outils. Et voilà, et j'ai toujours l'impression qu'avec Django, on a un outil qui est quand même plus puissant et aussi qui est plus flexible. Voilà. Tout à l'heure, je vous ai montré pour différencier des utilisateurs, quelque chose qu'on ne peut pas faire à ma connaissance avec un notebook. Je peux agencer l'architecture de mes pages comme je veux, les liens entre mes pages comme je veux. Donc, il y a beaucoup de liberté. La deuxième question qui se pose, c'est pourquoi avoir choisi le framework Django par rapport à d'autres frameworks web Python qui existent. Donc, pour être honnête, au départ, j'ai commencé avec un autre framework qui s'appelle Flask, qui est aussi très connu et tout aussi connu que Django. Et au départ, ça me semblait plus simple sous Flask parce que, quelque part, il y a plus de liberté dans un premier temps, quoi. On peut agencer les éléments plus comme on veut, quoi. Django, il faut un peu plus. Il y a une structure qui s'impose au départ, qui est un peu le modèle View Template. Il faut bien respecter quand on ne connaît pas, parce que sinon, on est vite perdu. Mais très vite, en fait, je me suis aperçu que cette contrainte d'organisation, que eh ben, ça m'aidait en fait sur le long terme, parce que je savais où les choses étaient bien rangées, et quand le projet grossit et qu'on débute, en fait, d'avoir cette structure qui nous est imposée au départ, en fait, c'est bien. Parce que finalement, ça aide pour la suite et on est moins perdu. Parce que sinon, on fait des choses et puis après, on ne comprend plus vraiment comment on a organisé. Alors que là, je trouve qu'il y a une structure, on suit la structure et puis ce n'est que dans un second temps où on peut essayer de faire sortir de la structure, faire des trucs un peu différents. Mais il y a toujours cette structure initiale qui aide beaucoup. Alors, pour commencer, ben moi, j'ai commencé avec le tutoriel officiel de Django, qui est très bien fait. Et puis, je dirais que c'est normal de s'y référer souvent, même après plusieurs années. En fait, j'y reviens parce que j'ai oublié tel truc, comment on faisait. Donc, voilà, je conseille cette ressource qui est bien faite. Hein. Et alors, comment ça marche, la technique? Parce que Emilien a parlé un peu des dessous de la chose, donc je ne vais pas rentrer beaucoup dans les dessous, mais pour vous expliquer, en fait, par rapport à mon exemple tout à l'heure de construction d'un corpus d'études, en fait, derrière, je crée ce qu'on appelle un modèle. Et ici, vous avez le code, quoi, il s'appelle corpus d'études, et vous voyez que, y a toutes les variables qui étaient dans mon formulaire. En précisant, ben voilà, est-ce que c'est une chaîne de caractères qui est attendue, sa longueur maximum, ou est-ce que c'est un entier? Et donc, je mets toutes mes options de mon modèle comme ça. Alors. Et ensuite, ce modèle, il permet facilement de créer un formulaire, celui que vous avez vu précédemment. Et à chaque fois que le formulaire est validé, ça fait un enregistrement dans une base de données. Et à cet enregistrement, je peux coupler une fonction. Ici, c'est la fonction qui va créer le corpus d'études en fonction des paramètres que j'ai spécifiés. Et donc, ça lance cette fonction. Et si cette fonction, et après, je peux, à la fin de cette fonction, renvoyer vers une ou plusieurs pages HTML. Par exemple, si la fonction a réussi, je peux envoyer vers une page où qui met, voilà, vous avez réussi à créer votre corpus. Et si ça a échoué, je peux envoyer vers une autre page. Et à tout moment, après, je peux requêter ma base de données pour voir ce qui a été enregistré. Par exemple, quand l'utilisateur peut afficher les corpus qui existent, en fait, c'est une requête derrière à la base de données des corpus existants. Donc, je trouve que c'est un système très pratique pour réaliser des expériences et surtout pour garder en mémoire ce qu'on fait au fur et à mesure, quoi. Voilà, je fais une expérience, je crée un nouveau corpus, hop, il est enregistré et j'ai la mémoire de tous les paramètres que j'ai mis pour le faire. Ce qui est appréciable avec Django, c'est la flexibilité pour organiser les liens entre pages. Tout à l'heure, sur mon premier focus où je vous montrais la page où il y avait tout le texte et j'avais un lien pour aller sur les résultats de la fonction qui affiche les numéros des annales de géographie. En fait, dans le code, en URL, l'URL, c'est juste une URL qui renvoie vers ma fonction avec le bon argument. Ici, l'argument géo, ça renvoie à la revue annale de géographie. Et voilà, cette fonction, hop, elle va chercher les numéros et puis elle renvoie le résultat sous forme d'une liste qui l'envoie à la page HTML qui fait l'affichage. Un des trucs que j'ai beaucoup aimé avec Django, c'est aussi la facilité après d'intégrer des librairies dans l'affichage JavaScript, notamment pour tout ce qui est visualisation dynamique, mais faire quelque chose avec des 3JS, bah, ça ne pose pas de problème. Suffit de le mettre en ajout de la page HTML et voilà, on peut du coup jouer avec des choses en termes de visualisation qui sont puissantes et ça ne pose pas trop de problèmes.
Max, une petite question sur
Ouais.
la technique de RIA. Faut-il construire un modèle conceptuel pour la base de données en amont, en fait? Ou est-ce que c'est directement un framework qui gère la base de données et l'inscription de la
Alors,
base de données derrière?
Nous, on construit un modèle conceptuel au sens où quand on va écrire nos sous-modèles, là, quoi, ce que j'ai appelé ici un modèle, mais qui en fait serait un sous-modèle du modèle conceptuel, ça pousse à faire ça, à faire à créer des objets avec en définissant un modèle. Donc oui, ça pousse à faire ça, en effet, à conceptualiser un peu le truc en termes de modèle et de sous-modèle, de voir comment c'est relié. Par exemple, après, mes résultats, ils vont être reliés à un corpus d'études. Donc, j'ai un petit modèle conceptuel où toutes mes classes sont reliées entre elles. Ouais. Donc, ça, c'est la structure classique d'un projet où, en fait, vous voyez où on retrouve les modèles qui sont stockés dans model.py, les URL, les fonctions, elles sont dans view.py et les pages HTML dans templates. Donc, c'est toujours ça, la structure de base, et c'est assez bien parce que quand vous ouvrez après un projet Django, en fait, vous savez où il faut aller regarder pour comprendre comment c'est structuré. Un projet peut contenir plusieurs applis comme celle-là. Voilà, là, c'est une appli liée à mon introduction, mais sur ma délimitation de corpus, j'en ai une autre. Sur mes résultats, j'en ai une autre. Donc, j'ai un projet avec plusieurs applis. Ensuite, pour débugger, on peut lancer des tests. Moi, je dois avouer que je ne le fais pas beaucoup. Mon débugage, souvent, c'est je lance l'appli en local. Et je fais des tests, je regarde quand ça plante, puis je lis les messages d'erreur et je corrige. Voilà. Après, un développeur web ne ferait pas forcément comme ça et aurait une autre pratique que la mienne, je pense. Il y a beaucoup de ressources en ligne avec beaucoup de questions qui ont été déjà posées, donc c'est assez facile quand on a des problèmes. Au départ, quand même, ce n'est pas évident qu'on a que quelques bases en programmation parce que c'est très orienté objet avec des fonctions qui existent déjà, qu'il faut apprendre à utiliser et puis parfois à détourner avec des surcharges de fonctions. Donc, en fait, ça permet pour moi, en tout cas, ça m'a permis de faire un saut dans la programmation. Il y avait une pratique de script un peu basique. Et maintenant, je ne dirais pas que je pense objet, mais je vois comment penser objet et je comprends un peu plus ce qu'il y a derrière. En fait, ça m'a permis de faire une transition vers ça. Il y a aussi déjà beaucoup d'extensions qui existent, qu'on découvre au fur et à mesure. Django Extension, Django Crispy, par exemple, pour mettre en forme les formulaires, pour faire de l'autocomplétion des formulaires. Donc, on découvre tout ça au fur et à mesure. Et au départ, ça fait vraiment beaucoup de découvertes. Donc, ça nécessite un peu de temps et d'envie. Et mon conseil, et là, c'est vraiment faites ce que je dis et faites pas ce que je fais, c'est de commencer par des petits projets et de ne pas rajouter toujours des nouvelles idées sans avoir terminé les anciennes. Voilà, parce que c'est très flexible, on a tendance à vouloir vite rajouter quelque chose, et puis la tendance, c'est de rien finir et d'empiler les projets, et voilà. Donc, une fois que le truc marche en local, on lance l'appli en local sur un port par défaut, c'est celui-là. La seconde étape qui n'est pas évidente, c'est l'étape du déploiement de l'application pour pas qu'elle marche juste sur votre ordinateur, mais qu'elle marche sur le web. Et sur ce sujet, en fait, j'ai eu de l'aide de la part de l'infrastructure de recherche Humanum. En fait, ils ont accepté d'héberger mon projet sur leur serveur, de le connecter à une base de données qui est PostgreSQL et de lui fournir une adresse URL de sortie. Donc, quand je vais la déployer, ça sortira sur cette adresse. Et voilà, j'ai eu la chance d'avoir un interlocuteur au niveau d'Humanum très sympathique et très efficace. Et voilà, je n'ai pas encore fini le processus. Mais il m'a déjà bien dépanné parce que j'ai fait des tests. Des fois, je fais des tests, je le déploie pour voir si ça marche. Et il m'a beaucoup aidé et je remercie. Alors, troisième partie, qu'est-ce que ça m'a apporté et quelles limites? Donc, le premier apport, c'est ce que j'ai développé tout à l'heure, un saut un peu dans les compétences de programmation, mais je dirais aussi un saut dans l'utilisation de bases de données, dans le maniement de serveurs web, parce que bah, voilà, votre projet, vous allez devoir le déposer sur un serveur, l'envoyer en ligne de commande. Donc, tout ça, c'est des nouveaux trucs qu'on n'a pas forcément l'habitude de faire. Des progrès aussi dans tout ce qui est syntaxe web, organisation d'une page. Voilà, je pense que l'interface, c'est une très bonne manière de valoriser un projet, même si de mon côté, voilà, c'est très web 1.0, quoi, le design de l'interface, j'ai pas du tout travaillé, quoi. Moi, je mets des URL, des renvois entre liens, des boutons, et y a pas de, je ne suis pas allé au-delà, quoi, parce que travailler tout ce qui est front-end, c'était trop pour moi en même temps. Pour moi, ça s'inscrit dans un mouvement de fond, et là, je renvoie à la thèse de Robin Desmouras sur le vacillement des formats. Avec beaucoup de nouveaux formats, et l'interface fait partie de ces nouveaux formats. Et par rapport à ma thèse, c'était une manière de réfléchir sur les humanités numériques en action, quoi, en faisant, et pas seulement en lisant d'autres auteurs qui auraient réfléchi. Au niveau des limites de l'interface, en tous les cas la mienne, je me suis aperçu que si les calculs demandés sont un peu longs, en fait, ce n'est pas forcément adapté par rapport à nos pratiques du web, quoi. On a tendance à vouloir cliquer et puis que ça s'affiche, et pas forcément que ça lance une fonction qui va tourner une demi-heure et qui va faire un affichage. Une des parades que j'ai trouvées, c'est que souvent, je demande à la fonction de créer un fichier de résultats, et puis après, ma fonction, elle va regarder si le fichier de résultats existe déjà. Et s'il existe, eh ben, elle affiche les résultats qu'elle a déjà stockés. Et du coup, ça va, dans ce cas-là, ça va très rapidement. Mais ça marche que s'il n'y a pas des milliards de résultats différents qui peuvent être générés. Donc, c'est vraiment quelque chose, j'utilise une fonction qui voilà, elle regarde s'il y a déjà un résultat qui existe stocké dans un fichier. Et dans ce cas-là, elle l'affiche. Et, si, et sinon, elle le crée. Ça fait qu'on attend que la première fois. Au niveau, ce qui est, je pense, un peu pénible quand on met en place un outil comme ça, c'est qu'il faudrait faire des tests sur plein de navigateurs différents, sur plein de supports différents, les tablettes, les téléphones. Moi, à mon niveau, je vais dire que l'interface a été seulement testée sous Firefox et Chrome sur un écran de grande taille PC. Et puis, je pense que je ne vais pas m'amuser à faire tout ça parce que c'est, je pense que c'est vraiment un boulot pas facile, un peu ingrat, et voilà, j'aurais pas le temps. Une question auquel j'ai pas eu à faire, mais je pense qu'il y a un vrai problème, c'est le maintien de l'interface dans le temps, et surtout quand on utilise des librairies un peu externes en Python ou en JavaScript. Je suis pas sûr que dans quelques années, mon interface, elle marchera encore, ou il faudrait pas que j'y revienne et que je bidouille deux, trois trucs pour que ça continue à marcher. Ma conclusion, c'est des réflexions personnelles. En fait, j'ai un sentiment un peu ambivalent. Je suis vraiment content de cette expérience par rapport aux compétences que ça m'a apportées, mais je n'ai pas encore cette facilité de dire, et que j'aimerais bien pouvoir dire, tiens, je vais faire une interface pour tel projet, et hop, c'est parti. Parce que pour moi, c'est encore à chaque fois un petit défi. J'ai marqué, mais je pense que je pourrais plus marquer un gros défi. Parce que je n'ai pas assez d'expérience, je n'ai pas encore mené jusqu'au bout ce premier projet. Et aujourd'hui, en fait, c'est assez difficile parce que j'ai l'impression que ça bloque un peu ma fin de thèse, parce que j'ai en même temps les corrections de manuscrits à faire, en même temps à finaliser l'interface, plus des obligations personnelles à côté. Donc, ce n'est pas simple. Et donc, je pense que les gens qui veulent se lancer là-dedans en thèse, commencer le plus tôt possible en perdant pas beaucoup de temps par rapport à ce que j'ai fait, c'est bien, parce que ça prend toujours du temps à la fin, et puis la thèse prend du temps à la fin aussi sur d'autres choses, donc voilà, on se retrouve un peu dans un étranglement, et il faut gérer ça. Voilà, je vous remercie de votre attention et puis en espérant que ça puisse aider à certaines personnes.